25 octobre 1983, 17h. J'arpente la chaussée de Acht à Skarbek. J'arrive à la hauteur de la rue Cornet-Degré. Un appel joyeux retentit. « Marcel, Marcel !» J'aperçois notre ami Carlos D'Amata courir à ma rencontre, un transistor sur l'épaule. « Ça marche, ça marche !» Je m'approche. Notre émetteur vient d'être branché. C'est l'entrée de Radio Panique sur les ondes FM.
Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 1, la victoire du mouvement des radios libres et la gestation de Radio Panique.
Lorsque Radio Panique commence à émettre sur les ondes, il y a 4 ans déjà que l'épopée des radios libres a commencé en Belgique. Auparavant, il y eut des frémissements. En 1968, dans la foulée du mouvement de contestation, des étudiants de l'ULB diffusent quelques émissions. À partir de 1974, quelques ex-cibistes, fanas de technique, diffusent clandestinement de la musique. Ce sont à Bruxelles les débuts, entre autres, de Radio 104 et Radio Capitale. Le style « music and news » des radios pirates anglaises en mer du Nord les fascine. Et pas seulement eux. Vous rappelez-vous Radio Caroline ou Radio Véronica ?
Radio Caroline, du nom de la fille du président Kennedy, créée par Ronan O'Reilly, a comme devise « Love, Peace and Good Music ». Elle émet depuis 1964 en ondes moyennes, 24 heures sur 24, à partir d'un bateau stationné dans les eaux internationales de la mer du Nord. Elle diffuse surtout la musique de la contre-culture pop anglaise, ne craignant pas de passer in extenso des albums inédits. Très vite, on estime à 20 millions le nombre de ses auditeurs. Elle est mise hors la loi, et le bateau, le Miami Go, est arraisonné en 1968. Caroline est aussi le nom de la fille aînée d'un des animateurs les plus engagés de Radio Panique, Philippe Livreau.
La radio libre FM en Belgique a d'abord été une radio ponctuelle.
Mais le vrai début du mouvement des radios libres en Belgique francophone a lieu à Couvain, mars 1978. Un groupe de libertaires bruxellois rejoint le comité couvinois contre la construction d'un barrage sur l'eau noire. Il crée une radio ponctuelle d'intervention citoyenne politique, c'est Radio Eau Noire. Cette radio émettra clandestinement une fois par semaine, tant que le projet de barrage ne sera pas retiré. Elle aurait jusqu'à 15 000 auditeurs. L'impact de Radio Eau Noire est extraordinaire. On en parle dans tout le pays. Son apparition réactive l'imaginaire de la résistance clandestine dans la population. De surcroît, elle est efficace, puisqu'elle s'appuie sur un fort mouvement populaire. Une première brèche est percée dans le monopole des instituts nationaux de radiodiffusion. Dans la foulée de Radio Eau Noire, d'autres radios libres naissent à Huy, Andenne, Bruxelles, Charleroi, La Roche. Elles sont toutes ponctuelles, accompagnant des luttes ou des mouvements. On y retrouve souvent, mais pas exclusivement, des militants écologistes, des militants de la coordination antinucléaire, des jeunes syndicalistes. À Bruxelles, mai 1978, des membres du comité antinucléaire fondent Radio Tam Tam. Puis c'est Radio Free Waves qui, à l'exemple de la Citizen Band aux USA, veut donner la parole aux isolés et aux marginaux et se faire l'écho des luttes. Cette radio est bilingue, notons-le. Le 9 novembre, Radio Brol, une des futures radios alternatives, réalise sa première émission en direct sur le parcours de la manifestation nationale des étudiants contre l'augmentation du Minerval. En mars 1979, Radio Blankendel apparaît pour sauver la forêt de Soigne.
En France et en Allemagne aussi, le mouvement des radios libres est étroitement lié aux luttes écologiques et antinucléaires. En 1979, Radio Verte Fessenheim regroupe une quinzaine d'émetteurs clandestins répartis en France-Alsace, en Allemagne et en Suisse pour lutter contre l'installation de centrales nucléaires.
La radio libre ponctuelle, portée par une lutte citoyenne et porteuse d'elle aussi, voilà ce qui cimentera par la suite tout l'imaginaire de la radio vraiment libre. C'est le référent absolu pour toute radio libre à l'avenir.
Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit.
Radio Panique, Radio Panique, Radio
Panique. L'histoire d'une radio libre parmi d'autres.
L'histoire de Radio Panique, c'est simultanément l'histoire d'une radio libre et l'histoire d'une association de citoyens. Des citoyens qui se sont investis et s'investissent encore passionnément et bénévolement dans un projet. Pas n'importe quel projet, un projet qui se dit et se veut alternatif. Alternatif vis-à-vis des programmations dominantes dans les médias dominants. Alternatif aussi vis-à-vis des rapports sociaux dominants, généralement structurés de manière hiérarchique et bureaucratique. Cette histoire, je ne la raconterai pas à la manière d'un historien froid et distant. Mon histoire de Radio Panique sera une histoire témoin, reflet, amour, haine, une histoire de petits bonheurs et de grandes déceptions, une histoire critique, engagée, une histoire ouverte vers l'avenir. Je n'ai pas à cacher que j'ai été un acteur privilégié de cette histoire. Je suis un des fondateurs de Radio Panique. J'en ai été administrateur depuis le début jusqu'en 1997. Et enfin, j'y ai été employé rémunéré à temps plein jusqu'au début de la même année 1997. Mon regard sur Radio Panique sera double. Un regard de l'intérieur, à partir de mon vécu, du vécu de ses membres, à partir aussi de ses archives sonores ou écrites, et un regard de l'extérieur, avec les nécessaires repères chronologiques et références vérifiées, avec des plongées dans son contexte social et dans son environnement médiatique. Il y aura aussi parfois des moments d'arrêt, d'analyse, de réflexion. Nous cheminerons du plus anecdotique au plus philosophique, du plus politique au plus quotidien, du plus prosaïque au plus dramatique.
Puisqu'il utilise le hasard dans son œuvre, l'artiste est le seul homme sur la Terre qui éclaire malgré lui l'imprévisible, le futur, tout ce qui sera demain. L'artiste a toujours créé à partir des deux problèmes essentiels de la vie, trouver les mécanismes de la mémoire et les règles du hasard. Une interprétation du monde axée sur ces deux problèmes serait donc une interprétation ou une vision panique. Arabal.
J'espère ainsi apporter des matériaux pour comprendre le mouvement des radios libres en Belgique francophone et en recueillir l'héritage, ne fût-ce que pour faire autre chose que de la radio. En effet, ce mouvement est peut-être une espèce en voie de disparition. À cause du développement technologique, à cause du rapport économique et politique de force qui lui est défavorable, et aussi, avouons-le, de par ses contradictions internes.
Il est bien entendu que l'homme panique ne lestera pas sa création par des appétits de servir, ni par le désir d'éclairer l'avenir. Il se moque des prophètes aux mains irrémédiablement ensanglantées et de ses missions. Arabal.
Comme un avion sans ailes, la saga de Radio Panique comprendra trois grandes parties. Une première partie aura trait aux années 1983-1987. Elle est marquée principalement par la lutte pour l'existence et la survie de Radio Panique. La deuxième partie, de 1987 à 1993, verra la stabilisation de Radio Panique. La troisième partie, de 1993 à 1997, nous permettra d'assister aux tentatives de décollage de l'avion Radio Panique. La première partie comportera 9 chapitres. Chaque chapitre aura une durée d'une heure. Nous sommes présentement dans le premier chapitre de la première partie, la victoire du mouvement des radios libres et la gestation de Radio Panique.
Une remarque encore. Les musiques que vous entendrez sont extraites du fond de cassette de compilation de Radio Panique, celles qui ont servi au fil du temps à alimenter son programme non-stop préenregistré. On les entendra dans l'état où elles se trouvent actuellement, après des dizaines ou des centaines de passages à l'antenne. Ce sont en effet des documents ayant valeur d'archives. Il ne peut être question de les reconstruire fictivement.
Radio Panique, la radio de l'an 2000.
Les radios d'animation locales.
Le début du mouvement des radios libres en Belgique francophone, ce sont les radios ponctuelles d'intervention politique qui surgissent un peu partout dans le courant de l'année 1978. Fin 1978, changement de cap. Jusqu'à ce moment, on cultive la clandestinité et on s'y adapte. La brièveté des émissions et les changements des lieux d'émission permettent d'échapper à la répression. Certains veulent sortir de la clandestinité et animer leur radio 24 heures sur 24. En s'affichant en plein jour, les nouvelles radios provoquent ouvertement le monopole de la RTBF sur les ondes et s'exposent consciemment à la répression de l'État. L'accent se déplace. C'est désormais Radio Louvain-la-Neuve qui devient le symbole de la lutte antimonopolistique. Radio Louvain-la-Neuve, née le 12 octobre 1978. Radio d'animation permanente, elle demeure cependant axée sur la liberté de l'expression et l'information militante. Son slogan, 10 000 auditeurs, 10 000 informateurs. Le 26 octobre, les animateurs se savent repérés par le service de la RTT, chargé de faire la police des ondes. Au lieu de déménager le matériel au plus vite, les animateurs appellent leurs auditeurs à l'aide. À leur propre surprise, en moins de quelques minutes, 1500 étudiants sont sur les lieux. Ils font battre en retraite les forces de l'ordre. Cet événement se répercute dans tout le pays. Une deuxième brèche est percée dans le monopole des instituts nationaux de radiodiffusion. La résistance des étudiants de Louvain-la-Neuve devient emblématique. Le modèle de la radio locale d'animation va susciter la naissance accélérée de radios dans tout le pays. Les autorités, dans un premier temps, ne réagissent pas. À Bruxelles, c'est le début de Radio Plus. Le modèle Radio Louvain-la-Neuve donne encore le primat à l'information sur la musique et le primat à l'expression populaire sur une programmation professionnelle. On se veut instrument et moteur de la communauté dans laquelle on est implanté. On croit aux vertus de l'outil comme tel et on affiche une idéologie populaire, pluraliste et démocratique. Ce modèle trop utopique ouvrira en fait la porte aux radios d'animation commerciale, où l'auditeur sera réduit à un rôle de consommateur et de client.
Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit.
Radio Panique, Radio Panique, Radio.
L'antiracisme fondateur de Radio Panique.
Dès fin 1982, Carlos D'Amata suscite des rencontres entre les responsables de Radio Josaphat et l'équipe du mensuel Courrier 1030, édité par l'association Le Crayon Libre. L'objectif ? Créer une nouvelle radio libre, une autre radio libre. Radio Josaphat à Schaerbeek a été mise sur orbite par la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne.
La JOC a été fondée par Joseph Cardenne, un prélat né à Schaerbeek et reconnu par le pape Pie XI en 1925. Le pape Pie XI avait mobilisé ses laïcs en vue de les préserver de l'athéisme et de rechristianiser un monde qui s'émancipait de plus en plus de l'Église catholique. C'était ce qu'on a appelé l'action catholique, organisée de façon corporatiste à l'image du fascisme italien. La JOC devait s'occuper des jeunes ouvriers. La JOC, en particulier en Belgique, a longtemps servi de terreau pour former les militants du syndicat et du mouvement ouvrier chrétien. À l'heure actuelle, à Bruxelles surtout, la JOC ne représente quasiment plus rien. Avec Jean-Paul II, la rechristianisation passe désormais par les groupes charismatiques. Et puis, il ne serait pas de bon ton de prétendre rechristianiser une jeunesse laborieuse dans sa grande majorité de provenance musulmane. La JOC belge s'est reconvertie en une sorte de groupement d'éducation permanente, bien subsidié par la communauté française.
Début des années 80, la JOC investit dans le mouvement des radios libres. À un certain moment, elle en activera 5 en Belgique francophone. Radio Josaphat, en plein cœur de Schaerbeek, en est une. Elle commence à émettre le 15 novembre 1980. Ce n'est pas un hasard. C'est le jour du mémorable cross populaire organisée par le Front antiraciste de Schaerbeek. On s'oppose ainsi à l'interdiction de l'inscription des immigrés que Jean Gol a initiée et que Roger Nolz applique avec ferveur. 500 Belges et immigrés courent dans les rues de la commune dite des Ânes et communient à une même messe antiraciste. Radio Josaphat y fait écho. L'antiracisme sera une référence fondamentale pour la future Radio Panique.
Alors merci d'être venus aussi nombreux. Nous dépassons les 400 inscriptions actuellement. Merci d'être venus malgré le mauvais temps pour notre crosse antiraciste qui doit prouver que c'est possible que Belges et immigrés ensemble fassent quelque chose, font une manifestation sportive, font ça chouette de vivre et de faire du sport ensemble et peuvent apprendre les uns des autres justement dans le respect de la différence.
Faute de moyens, Radio Josaphat sombre rapidement. Ses émissions sont interrompues en mai 82 suite à une panne d'émetteur. Son principal protagoniste, Luc Roussel, n'abdique pas. Mais il comprend qu'il doit s'allier à d'autres forces, car la JOC est trop isolée et trop insignifiante sur la scène bruxelloise.
Le Crayon Libre est une jeune association née en 1981 et axée sur les médias et en particulier sur l'écrit. Le Crayon Libre édite Courrier 1030, mensuel local mais non localiste. Tout comme le Front antiraciste, Courrier 1030 est porté par un concept de gauche pluraliste, de gauche plurielle comme on dirait maintenant. Courrier 1030 tente l'expérience d'une presse alternative tout en mimant la manière de se présenter de la presse dominante. Il est vendu en librairie, il est bien organisé et accumule les dossiers d'information. L'équipe pratique également des ateliers d'écriture ouverts aux habitants. Pendant un an, cette équipe est composée de 5 CST, cadres spécial temporaire. Par la suite, elle ne peut compter que sur des bénévoles.
À ce moment critique, Carlos D'Amata convainc une faible majorité de ses artisans qu'il est préférable de réaliser les objectifs de l'association via une radio libre plutôt que via le journal. Cette décision aura des conséquences inattendues pour ma propre vie. Carlos D'Amata.
Je collaborais avec un petit groupe qui éditait un petit journal de communal non officiel, qui était le Courrier de Schaerbeek-Saint-Josse. Ce journal demandait un énorme effort. En fait, il n'était pas très ouvert parce qu'il faut avoir accès à l'écriture, etc. Et moi, je trouvais que la radio était, comme peut-être aujourd'hui pour certains avec l'informatique et Internet, un outil plus convivial à l'époque qui permet une plus grande liberté d'expression et plus variée, puisqu'on peut passer de la musique, on interviewe des gens en direct, même si la radio a l'inconvénient d'être momentané. À moins d'enregistrer une émission, bon, bah, une fois que c'est dans l'air, ça disparaît. Ce n'est pas imprimé. Nous avons eu avec l'équipe du journal tout un débat. Moi, j'étais fort pour passer à la formule radio d'expression, et donc nous avons réussi, enfin la majorité a quand même emporté sur la formule radio. Et à ce moment-là, nous avons en fait un peu fait un deal avec une petite radio de quartier qui n'avait jamais vraiment fonctionné, mais qui avait la clé de l'accès légal aux médias. Donc, qui avait une reconnaissance alors qu'elle ne fonctionnait pas.
C'était Radio Josaphat.
C'était Radio Josaphat qui avait été lancé un peu par un mouvement, je dirais, de tendance religieuse qui traînait dans un grenier. C'était des gens, des jeunes du quartier, des jeunes par ailleurs très sympas, que j'avais moi-même parfois formé un peu aux techniques de studio, même si je ne suis pas un professionnel. Et on a trouvé un deal avec eux, et puis c'est devenu Radio Panique.
Le monopole sur les ondes des instituts étatiques de radiodiffusion.
Tant les radios ponctuelles, nées en 1978, que les radios d'animation qui leur succèdent s'opposent au monopole sur les ondes de la RTBF. De quoi s'agit-il ? Beaucoup ignorent aujourd'hui le fait que l'Institut National de Radiodiffusion, INR, ancêtre des actuels RTBF et VRT, n'a joui d'une situation de monopole de fait sur les ondes qu'au sortir de la guerre 40-45. Comment est née la radio en Belgique ? Les initiatives sont d'abord privées. Avec l'appui du roi Albert, en 1914, l'ingénieur Marzy monte une station expérimentale dans une annexe du palais de Laeken et émet vers toute l'Europe et même jusqu'au Congo belge. À l'arrivée de l'armée allemande, quelques mois plus tard, le roi fait dynamiter la station. Après la guerre 14-18, naissent de multiples radios, privées évidemment, et en particulier Radio Belgique, mise sur pied par une société fabriquant des postes de radio, la société belge Radio Électrique, la SBR. En 1927, le Royaume-Uni crée la BBC et lui octroie le monopole des ondes. En Belgique, afin de mettre de l'ordre sur les ondes envahies par de multiples groupes de pression, industriels, politiques et confessionnels, l'État intervient brutalement en 1930, en deux directions. D'une part, il affirme son pouvoir sur les radiocommunications. Désormais, il soumet l'installation de stations de radio à l'autorisation préalable du ministre, qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions. D'autre part, il permet au gouvernement d'exploiter lui-même la radiodiffusion. Dans les faits, il s'agira d'une nationalisation de Radio Belgique. L'INR est né. Dans les années 30, on compte une trentaine de radios en Belgique, parmi lesquelles Radio Scarbeck, Radio Binche, Radio Verviers, etc. La quasi-totalité de ces radios sont installées à Bruxelles ou en Wallonie. Elles émettent en ondes moyennes. La loi du 14 mai 1930 interdit la publicité, mais les pouvoirs ferment les yeux. Beaucoup de ces radios entrent en résistance pendant la guerre 40-45, et cependant, après la guerre, elles doivent cesser d'émettre. L'INR jouira dès lors d'une situation de monopole de fait sur les ondes. Toutes les fréquences attribuées à la Belgique en vertu des conventions internationales lui sont attribuées. Le monopole de fait ne sera légalisé qu'en 1965. La loi Armel, en 1960, scinde l'INR en deux instituts, la RTB et la BRT, auxquels elle attribue une indépendance gestionnaire. Cette même loi autorise les nouveaux instituts à s'engager dans la décentralisation. Ce sera la création des centres régionaux.
Pan, alias Pan, est le fils d'Hermès, le dieu espiègle, messager et inventeur de la lyre, et sans doute de Pénélope, avec laquelle il faisait l'amour sous la forme d'un bouc. Voilà pourquoi Pan, à sa naissance, avait les jambes, les cornes et le poil d'un bouc. D'après Homère, sa vue égaya tous les immortels, d'où son nom qui veut dire tout. Selon Max Müller, cependant, se fondant sur l'analogie avec le terme pavana, qui veut dire vent en sanskrit, Pan serait la personnification de la brise légère. Pan passait son temps à garder les troupeaux, à rendre fécondes les chèvres et les brebis, et à folâtrer avec les nymphes. Mais, fréquemment, il se cachait dans la montagne et s'amusait à causer aux voyageurs de subites frayeurs qui furent dès lors appelées « terreur panique ». Pan avait fini par symboliser le dieu universel, le grand tout. Plutarque raconte que, sous le règne de Tibère, un navigateur passant près des îles Échinades s'entendit appeler par trois fois par une voix mystérieuse qui lui dit enfin « Annonce à Palode que le grand Pan est mort ». C'était justement et précisément l'époque où le christianisme naissait en Judée. Extrait de la mythologie générale.
L'Association pour la libération des ondes.
L'Association pour la libération des ondes Belgique est fondée dès fin 1978. Les artisans des radios ponctuelles d'intervention et des premières radios d'animation locale s'organisent. Elles sont une quinzaine alors. Au départ, le seul objectif politique commun est celui de casser le monopole de la RTBF, libérer les ondes FM, dépénaliser les nouvelles radios. À ce moment, il n'est pas du tout encore question de légaliser les radios libres, ni Dieu ni maître. L'option anarchiste et libertaire est dominante. L'ALO se donne une charte revendicative. En voici quelques extraits.
Nous revendiquons la possibilité pour tous les citoyens ou groupes de citoyens, belges et immigrés, de réaliser et d'émettre des émissions de radio libre sur des problèmes ou des luttes qui les concernent, sans autorisation, contrôle ni censure de l'appareil de l'État. Ceci afin de laisser s'épanouir sans entrave la communication entre et dans les différents groupes sociaux, les différentes communautés. Nous revendiquons la gestion de ces radios libres par l'ensemble des auditeurs actifs, respectant en cela un pluralisme des idées dans l'action, dans la démarche. Nous revendiquons l'existence de radios d'expression locale qui, sur un territoire relativement petit et pour une population déterminée, permet de rendre plus proche l'informateur et l'informé, facilitant par là même le contrôle permanent des auditeurs sur leur radio. Cela se traduit au niveau technique par une limitation des émetteurs selon le caractère particulier de l'expérience. Nous revendiquons l'existence de ces radios sans soumission à l'argent et à la politique. Nous revendiquons la dépénalisation des radios libres et non la légalisation. Une loi est par essence une limite à la liberté. Cela veut dire que nous ne demandons pas une légalisation, une loi restrictive, réglementée, contrôlée, mais la mise à la disposition de tous ceux qui veulent s'exprimer par la voix des ondes d'une gamme de fréquences non occupées.
La nouvelle association, l'ALO, se veut le porte-parole de tous les artisans de radios libres. Elle constitue un groupe chargé de constituer un dossier juridique sur la dépénalisation, ainsi qu'une commission technique pour aider les radioteurs en herbe.
Art de vivre de l'homme panique. Amour de la vie, lâcheté, etc. Culte du bonheur. Tendresse et bonté, parce que c'est utile et agréable. Rejet d'une morale unique, de la pureté et autres formules policières qui, à la longue, ont abouti à la condamnation de celui qui ne les pratiquait pas. Confort dans la liberté. Solitude à l'intérieur du groupe, sans tour d'ivoire. Acceptation de conception et d'art de vivre totalement opposés aux siens. Le héros panique, c'est le déserteur. Arabal.
L'Association pour la libération des ondes revendique en 1979 la mise à la disposition des nouvelles radios libres FM, une gamme de fréquences.
Modulation de fréquences, qu'est-ce que c'est ?
On considère que l'origine de la radio remonte à 1895, lorsque Marconi réussit à envoyer au-delà d'une colline des signaux électriques. La téléphonie sans fil était inventée. Jusque dans les années 50, les producteurs radiophoniques n'utilisent que le système de la modulation d'amplitude, AM. Cela veut dire que la fréquence porteuse est constante et varie en amplitude proportionnellement au signal sonore. La qualité sonore est limitée. Ni les sons très aigus, ni les sons très bas ne sont transmis. Par contre, la transmission peut se faire à une très longue distance. Les ondes courtes, 2 à 30 MHz, permettent des transmissions intercontinentales. Les ondes moyennes, 520 à 1600 kHz, peuvent couvrir jusqu'à des centaines de kilomètres. Les ondes longues, 150 à 300 kHz, des milliers de kilomètres. En modulation d'amplitude, l'audibilité des messages est très dépendante des conditions atmosphériques, surtout en ce qui concerne les ondes courtes. Le Hertz, du nom du savant allemand qui a inventé l'excitateur d'ondes, est une unité de mesure équivalent à la fréquence d'un phénomène sur une période d'une seconde. Dans les années 20, l'ingénieur américain J.R. Carson expérimente l'autre système utilisé par la radiodiffusion, la modulation de fréquence. Ici, la fréquence porteuse varie en fonction du signal sonore. Elle autorise une bien meilleure qualité sonore que l'autre système. La FM couvre un spectre allant de 87,5 à 108 MHz. Dans de bonnes conditions, elle peut couvrir une distance de 50 km et même davantage. Curieusement, il faut attendre plus de 30 ans avant qu'on exploite les découvertes de Carson, c'est-à-dire les années 50 aux États-Unis, les années 60 en Europe. Les producteurs ont longtemps hésité, car avec la FM, ils doivent placer un nouvel émetteur tous les 50 km. Vu la qualité du son qu'offrait la FM, les instituts de radiodiffusion la destinent d'abord à la retransmission de la musique classique et de programmes culturels. Autre avantage de la FM sur l'AM, elle permet la stéréophonie qui est en train d'imposer l'industrie du disque. Insistons sur le fait que la radiodiffusion s'opère dans un cadre fini de fréquences hertziennes. Le nombre de fréquences n'est pas illimité. On ne connaît pas encore les nouvelles découvertes actuelles qui, en principe, autoriseront une démultiplication indéfinie. La rareté des fréquences, comme telle, en dehors des problèmes de législation, est la cause de cette guerre des ondes qui va perturber la scène radiophonique durant les années 80 et même au-delà.
Durant l'année 1983, Radio Josaphat et le Crayon Libre associent d'autres organisations pour fonder une nouvelle radio. Ainsi, Info Jeune Nord-Est de Bruxelles, le social culturel RAD de Saint-Josse, l'association La Cantine qui deviendra le Bouillon de Culture, et l'ACET, une association culturelle turque. Lors des discussions, on se met d'accord sur le texte d'une charte. Cette charte sera le document constitutif de Radio Panique. Elle sera remodelée 5 ans plus tard. En voici les extraits les plus significatifs.
Raison sociale. Article 1. Radio Panique est une association de fait. Membre de l'Association pour la libération des ondes, ALO. Article 2. Elle constitue une radio locale dont le rayon d'action englobe Schaerbeek et Saint-Josse. Son siège se trouve 47 bis rue Gillon, 1030 Saint-Josse. Article 3. Notre radio, qui se veut pluriculturelle, a principalement pour objet de favoriser les échanges entre les différents groupes qui caractérisent le quartier, notamment les jeunes et les immigrés. Article 4. Elle vise la promotion sociale et culturelle, ainsi que l'éducation permanente des habitants, respectant en cela un pluralisme démocratique dans son action et sa démarche. Article 5. Elle ne poursuit aucun but lucratif et ne se soumet pas au contrôle direct ou indirect de sociétés d'intérêts commerciaux ou économiques. Elle n'est subordonnée en aucune façon ni à un parti, ni à un syndicat, ni au mandataire public. Structures internes. Article 6. L'Assemblée générale est composée de tous les membres actifs ainsi que des sympathisants et auditeurs cotisants. Elle a un pouvoir décisionnel. Article 7. L'Assemblée des animateurs est chargée du fonctionnement ordinaire de la radio. Chaque groupe ou animateur individuel paie une cotisation au prorata du nombre d'heures d'émission, calculé mensuellement. Son taux est fixé par le comité de gestion, approuvé par l'Assemblée générale. Elle se réunit une fois par mois. Article 8. Le comité de gestion est constitué des responsables des différents secteurs. Trésorerie, secrétariat, programme, technique, maintenance des locaux, relations publiques. Il gère et coordonne les activités de la radio avec la participation de l'Assemblée des animateurs. Article 10. Les émissions doivent correspondre à la raison sociale de la radio. Article 12. Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'Assemblée des animateurs.
La libéralisation des ondes FM.
Fin 1978, surprise. Le conseil d'administration de la RTB ne se déclare pas opposé au principe de l'existence des radios libres. Le ministre de la Culture, Jean-Marie Dehousse, met en place une commission de l'audiovisuel qui va s'occuper notamment du problème de radio qu'elle nomme locale plutôt que libre. Ce changement de dénomination est déjà significatif pour la suite des événements. La commission rencontre régulièrement les représentants de l'ALO et quelques mois plus tard se déclare favorable sur le principe de la reconnaissance de radios locales indépendantes. Le 9 mars 1979, le Conseil des ministres charge un comité interministériel composée de représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des PTT, de la culture française et de la culture néerlandaise, d'instruire un dossier sur les radios locales. Le 18 mai 1979, le Conseil des ministres approuve un projet de loi sur les radiocommunications qui actualise la vieille loi du 14 mai 1930 et rend possible la libération des ondes. Fait nouveau, signe des temps, le ministre des Télégraphes et des Téléphones ne peut accorder une radio l'autorisation d'émettre qu'après avis conforme des ministres ayant la radiodiffusion dans leurs attributions, c'est-à-dire, à ce moment, les ministres de la Culture, francophones ou néerlandophones, et un an plus tard, après la réforme de la Constitution, les exécutifs des deux communautés. Cette dualité de pouvoir aura des conséquences catastrophiques quant au processus à venir des reconnaissances et attributions de fréquences. On le verra. Le projet de loi sera approuvé en juillet par la Chambre et le Sénat. Il sera signé par le roi le 30 juillet. Sur sa revendication fondamentale, la démonopolisation des ondes, l'ALO est victorieuse.
Il est possible qu'il y ait des hommes qui pensent paniquement sans être capables d'agir, et aussi d'autres qui agissent paniquement sans être capables de penser. C'est généralement l'état actuel de notre civilisation. D'une part, des idées sans action, et d'autre part, une action sans idée. Alexandre Jodorowsky.
Journée nationale des radios libres.
L'Association pour la libération des ondes, victorieuse, organise le 17 novembre 1979 une journée nationale des radios au plan K à Bruxelles. Extrait du compte-rendu de Daniel Sotio, d'un plan à l'autre, à la recherche des radios libres, dans Vidéodoc numéro 30, pages 1 à 5.
Les curieux, les intéressés, les queues qui connaissent et les autres qui voudraient bien savoir, les punks et les gauchos, des radioteurs et des radiotrices et d'autres, se promènent au travers des 5 plans de la raffinerie à la recherche des radios libres. Au total, près de 3500 personnes. Si la réussite de la fête est indéniable, on ne peut manquer de relever les contradictions et les manques que le mouvement a fait apparaître à cette occasion. Le temps du gadget passé, de nombreux animateurs se posent des questions et sur la radio et sur le fonctionnement de la station. Ainsi, il ne reste plus que 2 ou 3 animateurs de la première équipe de Louvain-la-Neuve. Petit à petit, les animateurs se rendent compte du rôle social qu'ils jouent. Ils ne peuvent plus faire de la radio comme ça, mais doivent penser aux auditeurs. L'amusement du début a fait place à un travail professionnel. Ce professionnalisme va de pair avec une prise de conscience des besoins et des moyens financiers. Les uns estiment qu'ils doivent être rémunérés, d'autres veulent seulement voir leurs frais couverts. J'en ai assez payé cette radio de ma poche. Si l'ALO définit dans sa charte 3 types de radios, radio militante, radio locale d'animation et radio ponctuelle, il faut reconnaître que dans les faits, l'association a admis toutes les radios libres en son sein, sans examen des candidatures. Il en résulte que l'ALO est une association nombreuse, à 2 exceptions près, toutes les radios sont membres de l'ALO, mais hybride, peu cohérente. Le débat du 17 novembre a tourné autour de ce problème. Quel type de radio et pourquoi ? 2 thèses opposées étaient en présence. Il y avait ceux qui veulent des radios nombreuses, différentes, créant un pluralisme dans le nombre, et ceux qui réenvisagent la possibilité d'un pluralisme intégré plus ou moins institutionnel. Cette manœuvre aura pour conséquence de condamner au silence les radios militantes pour lesquelles il n'est pas possible de s'intégrer au sein d'un bloc pluraliste. Les radios libres belges sont à l'aube de grands problèmes. Elles se rendent compte maintenant qu'elles n'ont pu éviter d'être des lièvres avant-coureurs d'autres intérêts. Reste à voir si les ripostes sont encore possibles.
Le taudis de la rue Gillon.
Pas de radio d'animation sans local. En raison de nos convictions, nous cherchons ce local dans les quartiers populaires de Skarbek ou de Saint-Josse. L'ancien local de Radio Josaphat ne convient pas. Trop exigu, trop bas pour une installation d'antenne. Il faut trouver un lieu qui surplombe quelque peu les quartiers afin de pouvoir émettre à une plus longue distance. Après beaucoup de recherches, on découvre finalement un rez-de-chaussée au haut de la rue Gillon à Saint-Josse. Notre antenne sera à la même hauteur absolue que les antennes de stations commerciales se dressant sur le building Martini de la place Rogier. Et puis, la rue Gillon est proche de lieux culturels qui sont parmi nos références. Les halles de Skarbek, le Botanique, le Travers, entre autres. Enfin, le loyer est minime, ce qui est appréciable quand on n'a pas d'argent. 4000 francs le mois. L'état du lieu est lamentable. On peut difficilement imaginer pire. Inhabité depuis longtemps, tout respire le moisi, tout soit de vermine et de crasse immonde. Il faut évacuer les ordures, nettoyer, racler, récurer, réparer les tuyauteries, poncer, peindre, installer l'électricité, construire un semblant de régie technique et de studio, aménager un bureau et une pièce d'accueil, isoler les murs et les plafonds avec des cartons d'œufs dont la configuration atténue les réverbérations, capitonner les portes, etc., etc. Hardy Petit, au travail.
On ignore encore à ce moment que l'histoire de Radio Panique sera scandée par une série perpétuelle de déménagements, de rénovations et d'aménagements, et que les trois périodes principales de cette histoire coïncideront avec des lieux d'implantation différents.
Par contre, on se rend déjà compte d'un autre phénomène qui sera à jamais récurrent. Faute d'argent, et aussi par motivation idéologique, on ne peut et on ne veut compter que sur ses propres forces. Mais l'engagement concret des uns et des autres varie en quantité et en qualité. Les uns travaillent trop jusqu'à en être écœurés, les autres attendent que la soupe soit préparée pour pouvoir la consommer. Parfois même sans dire merci. Est-ce une fatalité dans les associations de bénévoles ?
Tout homme panique doit se photographier nu, et si possible en train de faire l'amour. Alexandre Jodorowsky.
La radio libre, le must des années autour de 1980.
On peut se demander pourquoi le phénomène de la radio libre et de sa prolifération s'est produit fin des années 70 et début des années 80. En Belgique francophone, les radios seront plus de 50 fin 1979, plus de 200 fin 1980. Leur nombre doublera encore dans les deux années qui suivront. La Belgique est certes un peu en retard par rapport à l'Italie et à la France. Elle n'est donc pas foncièrement novatrice en la matière. La conjonction de plusieurs facteurs concourt à cette explosion de la radio libre. L'exploitation de la fréquence modulée, conjuguée à l'efflorescence du transistor dans les années 60, autorise paradoxalement une mobilité nouvelle et une nouvelle popularité à la radio, à une époque où les recherches et les intérêts se concentrent davantage sur le média télévision. La radio devient plus qu'avant le média du jeune, dans sa chambre, dans son lit, dans la rue, à la cuisine, dans la voiture, alors que le poste de télévision s'impose à tout le reste de la famille dans le living room et l'affiche dans la soumission. On a déjà insisté sur le fait que les fréquences radio ne sont pas illimitées. Cependant, les fréquences FM dans les années 70 sont loin d'être toutes utilisées par leurs propriétaires de droits, les instituts nationaux. Il y a des places à prendre. D'autant plus que, grâce au progrès d'électronique, le matériel d'émission en FM est léger et il ne coûte pas cher. On peut s'en tirer avec quelques dizaines de milliers de francs. On peut facilement aller l'acheter en Italie où sa vente est légalisée. Mais pourquoi faire de la radio FM devient-il le must de cette décennie ? Mai 1968 est passé par là. Il y a une propension à une expression plus libre et à une communication plus directe et plus colorée que celles offertes généralement par les radios nationales et également les télévisions. L'exemple des reportages en direct de mai 68 par RTL reste vivace chez les nouveaux militants. Car dans ces années, il y a un nouveau militantisme de type plus citoyen, plus écologique, plus libertaire, suivant une logique du plaisir davantage que la logique du devoir. En Belgique francophone, c'est cette vague qui ouvre la porte de la FM au privé avec les radios ponctuelles de lutte, puis les radios d'animation locale. Une fois la porte ouverte, tout le monde s'y engouffre. Les modèles des radios dites périphériques, RTL, Europe 1, et des radios dites pirates de la mer du Nord, Radio Caroline, Radio Véronica, Radio Maeva, stimulent les DJ de tout poil. L'industrie du disque est vite consciente de l'enjeu. Très rapidement, le militant de base et le gentil animateur local seront, parfois à leur insu, dépassés par l'entrepreneur, le vendeur de publicité et les groupes de presse.
Notre génération actuelle est un cirque, où les personnages se divisent en augustes, clowns et publics. L'homme panique est le clown. Le citoyen, qui affirme une seule idée à la fois, cherche une solution à chaque problème et croit être, est l'auguste. L'immense masse de badauds inertes est le public. Cependant, tout public est un auguste en puissance et tout auguste peut évoluer en clown parce que le monde est panique. Alexandre Jodorowsky.
Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit.
Radio panique, radio panique.
Radio Panique s'installe donc en 1983 dans un taudis à peine aménagé rue Gillon à Saint-Josse. La propriétaire de notre local est une dame octogénaire qui vit seule au premier étage, juste au-dessus de Radio Panique.
Cette dame est presque totalement sourde. Elle est complètement déconnectée de la vie sociale depuis 10 ou 20 ans. Les tractations pour la location sont héroïques. Nous tentons de lui expliquer que nous ne venons pas habiter, mais ériger une radio, et que nous avons besoin de son autorisation pour placer une antenne sur la toiture. Impossible de lui faire comprendre. Comme elle est flamande, nous appelons notre comparse Wilfried Borwutz à la rescousse. Il tâche de lui expliquer dans la langue de Vandel. En vain. Elle nous fixe avec de grands yeux éperdus. Elle ne connaît évidemment pas le phénomène des radios libres. Comment la chère dame pourrait-elle imaginer qu'une station émettrice s'installa dans son ridicule rez-de-chaussée? À un moment, elle croit comprendre que nous sommes de l'INR. Non, non, rétorquons-nous. Plus tard, elle pensera que nous sommes des vendeurs de postes de radio. Elle ne voit pas trop clair non plus pour s'apercevoir que notre vitrine est vide. Nous n'essayerons plus de la convaincre. Elle nous veut du bien. À plusieurs reprises, des personnes de son âge, alertées par elle, viendront sonner à la porte pour faire réviser leurs antiques postes de radio. Comment s'en sortir pour le contrat de location? Wilfried écrit sur un papier le montant du loyer mensuel à payer, ainsi que l'autorisation d'installer une antenne sur la toiture. Elle n'arrive pas à lire. Mais finalement, c'est elle qui débloque la situation. Elle désigne Wilfried, surtout, Carlos et moi aussi, et elle déclare qu'elle nous fait confiance, que nous sommes des braves, qu'elle va signer le papier. Elle dit « Peut-être avez-vous écrit que je vous vends la maison pour 0 francs, tant pis, j'ai confiance en vous, je signe. » Elle veut qu'on lui remette le loyer mensuel de main à main. Chaque mois, c'est la folie. Comme elle n'entend pas la sonnette, il faut hurler à sa porte pour que longtemps après, elle l'entrouve enfin et nous reconnaisse au préalable avant d'ouvrir. Même cinéma quand son médecin, une charmante dame, vient la visiter. Découragée, elle vient me rejoindre, on papote un peu, on se demande si la dame n'est pas décédée, puis on recommence à taper sur sa porte. Tant qu'elle pourra se mouvoir, la dame viendra régulièrement nous visiter, nous demandant si les affaires vont bien. Pendant toute une période, elle prétendra voir dans la nuit de grandes lumières émanant de chez nous et être visitée par des fantômes. Impossible de la dissuader. Nous en viendrons presque à croire nous-mêmes à ces fantômes.
La gauche traditionnelle n'aime pas les radios libres.
La gauche traditionnelle belge est très méfiante vis-à-vis de la première revendication de l'ALO, à savoir la libération des ondes. Les forces de gauche et de centre-gauche estiment à ce point contrôler la RTBF et surtout son secteur de l'information qu'elle n'éprouve pas le besoin de médias alternatifs et sous-estime l'offensive libérale. En même temps, elles méconnaissent la charge positive du mouvement, à savoir la force de l'auto-expression et de l'auto-organisation des citoyens des radios libres. à moins qu'elles le comprennent très bien et veulent tout bonnement s'en prémunir. L'establishment n'a jamais aimé la contestation. D'ailleurs, 20 ans après, c'est toujours la même chanson dans le royaume de Belgique. La gauche développe par contre une argumentation pertinente à partir de l'expérience italienne. La libéralisation des ondes en Italie a 3 ans d'avance sur la Belgique. Le démantèlement du monopole de la RAI coïncide avec l'émergence de multiples initiatives, plus ou moins anarchiques et citoyennes, mais déjà 6 mois plus tard, on assiste aux stratégies de reprise en main de la radiodiffusion par les instances politiques et commerciales. Extrait d'un article de Henri Ingberg, déjà responsable de l'audiovisuel en culture française, dans Vidéodoc 19, octobre-novembre 1978.
La première leçon à tirer de l'expérience italienne, c'est que si la période anarchique est intéressante au moment où tout éclate, où les habitudes traditionnelles explosent, elle cède rapidement la place aux intérêts politiques et commerciaux. Les radios de type démocratique, fortement majoritaires au départ, ne constituent plus aujourd'hui que 10% des radios en fonctionnement. Il ne faut pas se leurrer. Si on laisse aller les choses, si on laisse le piratage s'installer, dans 2 ans, pour une radio du genre Au Noir, à Couvain, il y aura 30 radios commerciales. Je crois que chez nous, à terme, on ne pourra se diriger vers autre chose que des radios locales de service public, multipliant les espaces autogérés, c'est-à-dire les possibilités pour les différents groupements socioculturels de produire eux-mêmes leurs émissions et de trouver un lieu d'accueil pour leur diffusion. Si des groupements comme Au Noir ne parvenaient pas à se faire entendre dans des structures publiques de radios locales, j'estime qu'ils n'auraient pas non plus d'avenir en tant que groupe autonome.
Henri Ingberg a raison dans son pronostic, et d'ailleurs, son parti aura sa part de responsabilité dans le pourrissement du mouvement. L'évolution de la RTBF, par contre, ne répondra guère à ses attentes, car elle sera de plus en plus ravagée par une idéologie affairiste. Vouloir institutionnaliser l'expression libre et la liberté de parole, n'est-ce pas finalement un rêve fou de politiciens ou de bureaucrates ?
Comme un avion sans air.
Le local de la rue Gillon, siège de Radio Panique dès 1983, est composé de 3 petites pièces en enfilade. La première pièce comporte une vitrine du côté de la rue, sur laquelle nous apposons l'affiche de la radio et la grille horaire. Le bureau occupe cette pièce. J'y passerai comme permanent quelques milliers d'heures. Il n'y a aucun équipement de secrétariat. Cette pièce est sombre, crue, jamais de soleil, toujours d'éclairage électrique. La deuxième pièce, au centre, est encore plus sombre. Les murs et le plafond sont recouverts de cartons de gris. La porte vers le bureau reste toujours ouverte, car le convecteur de gaz qui se trouve ici est censé chauffer également le bureau. Cette pièce, qu'instinctivement tout le monde fuit, doit servir de salle de réunion et de travail. Des boîtes de carton accumulées sur la cheminée sont les boîtes aux lettres des différentes émissions. Entre la deuxième et la troisième pièce, une porte capitonnée. Et nous voici dans le studio. Ce serait la partie la plus ensoleillée, mais un studio, c'est fatalement un espace clos et isolé. Le studio ne fait guère plus que 6 mètres carrés. Une porte donne accès à des WC, dont je garde le souvenir qu'ils sont perpétuellement bouchés ou en voie de se boucher. Une fenêtre s'ouvre sur une annexe. Nous profitons de l'opportunité, déblayons les débris de la fenêtre pourrie et installons la technique dans l'annexe. En face, une petite table en demi-cercle, adossée au mur, sur laquelle on dépose les pieds de micro. Autour de la table, quelques chaises bruyantes et branlantes. Une porte du studio donne sur une petite cour. Pour rejoindre l'annexe, c'est-à-dire la régie technique, il faut passer par cette cour entourée de hauts murs. Et cela, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau temps. Les premières années de Radio Panique sont héroïques. Quoi qu'on fasse pour améliorer la situation, le local de la rue Gillon reste un taudis pourri qu'on a seulement aménagé en surface. on colmate perpétuellement les brèches, puis on s'habitue avec résignation à la sinistrose. Un petit monde animal, fourmis, araignées, souris, grouille derrière les cartons d'œufs encollés sur les murs et plafonds. Un jour, un chat vient se frotter au piège à souris fait d'une gélatine gluante. Il a la frayeur de sa vie, galope vers les toits, le piège collé à son derrière.
Le ciel est panique. La matière et l'antimatière sont panique. Le fond de la mer est panique. Les comics sont de la poésie panique. La télévision est panique. La propagande commerciale est panique. La pornographie est panique. La science actuelle est panique. Le jazz est panique. Les musées sont panique. La gastronomie est panique. La polygamie est panique. Etc. Trois ingrédients panique. Euphorie, humour, terreur. Alexandre Jodorowsky.
L'Association pour la libération des ondes change de stratégie.
Fin 1980, on peut dénombrer jusqu'à 200 radios en Belgique francophone. Jusque fin 1979, l'ALO s'efforce de fédérer un maximum de radios, mais l'ensemble est hybride, contradictoire. Les premières radios sont investies avant tout par des militants plutôt alternatifs, en quête de nouvelles formes de sensibilisation, libertaires, antinucléaires, immigrés, écologistes, anarchistes, féministes, autonomes, homosexuels. Une fois le principe de la libération des ondes acquis, beaucoup de radios qui ont rejoint l'ALO mettent alors en avant leurs différences avec l'idéologie libertaire qui anime ses protagonistes. D'autre part, dès la fin 1979, d'autres radios apparaissent sur la bande FM, qui n'ont plus rien à voir avec les idées originaires de l'ALO. À Bruxelles, trois radios politiques naissent, Radio XL, PRL, Microclimat, PS et Radio Iris, FDF. Puis arrivent les radios commerciales, déjà Radio Contact et SIS, qui ne manquent pas d'appoint politique. Le conseil d'administration de Radio Contact comporte deux personnalités libérales de poids, Pierre Houtmans et Freddy Nates. En outre, la bande FM est envahie par une multitude de disjockeys. Fin 1979, l'ALO pense avoir encore la situation bien en main, du moins si elle impose une clarification à ses membres. Roger Noël, dit Babar, le héros des radios libres belges, s'exprime ainsi dans la revue Vidéodoc en octobre 1979.
Les publicistes sont prêts à foncer dans la plus petite faille que nous laisserions ouverte. C'est pourquoi, je l'espère, toutes les radios regroupées dans l'ALO mettront autant de courage et d'imagination dans leur lutte contre les commerçants qu'elles en ont mis dans leur lutte contre l'État pour avoir le droit d'émettre. Notre lutte contre la publicité sur les radios libres doit rencontrer celle des travailleurs de la RTBF qui veulent aussi empêcher les commerçants d'acheter des minutes d'antenne sur les chaînes nationales. Nous ne servirons pas de marchepied à ceux dont le but est de faire de l'argent. La radio libre est un moyen d'expression, pas une société anonyme.
L'ALO se radicalise et, paradoxalement, pour parer à une dérive à l'italienne, change radicalement de stratégie. Jusqu'alors, elle proclamait le principe de la non-légalisation de la liberté d'émettre. Désormais, elle réclame un cadre législatif de reconnaissance des radios qui soit totalement restrictif par rapport aux projets de radio politique et de radio commerciale. Elle participe activement à la discussion interne au ministère de la Culture française pour atteindre ses fins.
Radio Panique installe son antenne.
Pas de radio sans antenne émettrice. En automne de 1983, nous faisons appel à des amis actifs dans la construction pour placer l'antenne. Conseillés par des animateurs d'autres radios, nous voulons une antenne à 4 dipôles, ce qui réduira les frais d'achat de l'émetteur. On pourra en effet se contenter d'un émetteur à 25 watts, puisque le dipôle multiplie par 4 sa puissance, et que la loi interdit de dépasser une puissance apparente rayonnée, c'est-à-dire une puissance sortie d'antenne supérieure à 100 watts. Les dipôles devant se situer à environ 2,50 m les uns des autres, il nous faut donc un mât d'antenne de 12 mètres environ. Les dipôles devront être dirigés vers le centre de la ville. Le travail d'installation de l'antenne dure 3 jours, opéré dans des conditions atmosphériques détestables. Vent et pluie redoublent d'intensité. À tout moment, des embûches. Il faut stabiliser l'assise du mât car les tuiles s'effritent. Les toitures sont en pente assez raide et rendues très glissantes par la pluie. Des haubans doivent être accrochés parfois aux cheminées des voisins. Ces cheminées sont dans un état lamentable et doivent être consolidées. Le chef d'équipe monte le mât télescopique partie par partie. Lorsqu'il arrive à la dernière partie, c'est la nuit. On ne voit plus rien. Il est agrippé au mât, méchamment secoué par la tempête. L'opération dure un temps qui me paraît infini. Ses 4 collaborateurs se trouvent aux endroits où les haubans seront tendus et attachés. Ils sont frigorifiés, ne sentent plus leur corps, à 15 mètres du sol. Enfin, l'entreprise réussit et tout le monde peut redescendre. Nous sommes quelques-uns en bas. Sujet au vertige, je ne peux participer directement au travail. Mon rôle est celui du coursier, allant chercher à gauche ou à droite des pièces ou des matériaux qui manquent. Je m'occupe aussi de la restauration. La consommation de bière et de cognac est abondante. Tout le temps, j'appréhende des possibilités d'accident. Bien sûr, je suis bien plus angoissé que les travailleurs eux-mêmes. Néanmoins, je me dis que je ne demanderai plus jamais à des amis d'opérer par solidarité un travail aussi dangereux dans le but d'épargner de l'argent. Finalement, je ne sais même pas si nous avons épargné de l'argent. L'expérience plus tard me montrera que le travail de ces 5 personnes en 3 jours aurait été accompli par un antenniste professionnel en un seul jour.
Thérapeutique par la panique. Beaucoup de petites paniques débarrassent d'une grande peur. Ruellan.
Triomphe sur le plan législatif des thèses de l'Association pour la libération des ondes.
Début 1981, les radios commerciales créent leur propre fédération de radio, le Groupement des radios indépendantes de Belgique. Notez-le, l'ALO parle de radio locale, le GRIB parle de radio indépendante. L'ALO et le GRIB vont s'affronter durement, notamment en ce qui concerne le principe d'une limitation de puissance apparente rayonnée des radios à 100 watts. L'ALO est pour, cela permettra à un maximum de projets de trouver une place sur la bande FM sans se gêner mutuellement. Le GRIB est contre. Ici, on pense déjà à de fortes puissances d'émission pour attirer les annonceurs publicitaires. L'arrêté royal du ministre Willox, le 20 août 1981, réglemente l'établissement et le fonctionnement des stations de radiodiffusion locale et donne raison à l'ALO. Il sera interdit d'excéder les 100 watts. La hauteur d'antenne ne peut dépasser 35 mètres. La publicité reste interdite. En attendant qu'un plan des fréquences soit établi, on doit se limiter à occuper la bande 100-104 MHz. Le 8 septembre 1981, la communauté française, sous la proposition du ministre Valmy Féo, décrète que ne pourront être reconnues que des radios strictement locales à vocation d'éducation permanente. Les radios libres deviennent donc officiellement des radios locales. Il est exclu de reconnaître des radios politiques et commerciales. Les pouvoirs publics locaux peuvent cependant collaborer à organiser des radios via des foyers culturels agréés. En avril 1982, un conseil des radios locales, chargé d'opérer les reconnaissances, sera instauré par le ministre Philippe Moureau. Apparemment, c'est la conception de l'ALO qui triomphe sur toute la ligne. Richard Kalisch commentera ce qu'il appelle un paradoxe de l'histoire dans Vidéodoc 59, mars 1983.
Les plus sûrs soutiens du décret et de ses critères sont ceux-là même qui se situaient à l'origine dans l'illégalité. À l'inverse, ceux qui poussent en sourciller le système du libéralisme économique sont en principe hors la loi.
Je proclame dès maintenant que Panique n'est ni un groupe, ni un mouvement artistique ou littéraire. Il serait plutôt un style de vie. Ou plutôt, j'ignore ce que c'est. Je préférerais même appeler le panique un anti-mouvement qu'un mouvement. Tout le monde peut se dire panique, se proclamer créateur du mouvement, écrire la théorie panique. Chacun peut affirmer qu'il fut le premier à avoir l'idée de panique. Arabal.
Comme un avion sans herbe, j'ai chanté toute la nuit.
Radio panique, radio panique, radio.
Pure déco. Chaulule,
Chaulule,
elle est poupée,
elle est poupée,
caca soussée,
caca soussée,
timpe tampe dompe tim,
timpe tampe dompe tim.
Vous vous appelez Panique ? Quel joli nom !
Beaucoup demandent pourquoi ce nom de Panique ? Lors des négociations préliminaires en 1783, une chose est sûre. On ne reprendra pas le nom de Radio Josaphat, trop marqué par son appartenance avec une organisation chrétienne. Le dossier de demande de reconnaissance en août désigne la station comme Radio Tam Tam. C'est une invention de Carlos D'Amata, bien reçue par la plupart. Cependant, certains, notamment d'origine africaine, n'aiment pas ce nom. Ils ridiculiseraient le projet. Bon, on va changer. En octobre, on demande à tous les artisans de proposer des noms. Rapidement, une trentaine d'appellations possibles circulent. On décidera en assemblée générale. Chacun tient mordicus à ses propositions. On les passe au vote. Finalement, deux noms s'imposent aux autres, mais sans réussir à recueillir la majorité absolue des suffrages. Le premier est Radio Rumeur Urbaine. Un nom très peu radiophonique, mais qui indique bien notre propos de devenir comme une caisse de résonance de la ville. Le deuxième est Babel FM, allusion à la multiplicité des cultures qui allait marquer la nouvelle radio. Aucune des deux appellations n'arrive à prendre le dessus. La discussion est vive, la nuit est bien avancée, et les participants à la réunion commencent à fatiguer. Au milieu de l'excitation générale, un jeune néerlandophone lance soudain « Radio Panique ». Et peut-être à cause de cet état d'épuisement qui caractérise les fins de trop longues réunions, tout le monde accepte la nouvelle proposition. Depuis lors, personne n'a remis en cause ce nom. Il est pratique. Il se dit de la même façon dans quasi toutes les langues du monde. On le retient aisément. Il est commode à utiliser dans les slogans, les jingles. Pour certains, il évoque agréablement le mouvement panique d'Arabal et Topor. Carlos D'Amata.
Et Radio Panique, c'était un nom qui était aussi un peu un compromis. C'est-à-dire qu'il y avait la présence d'émissions néerlandophones comme d'autres nationalités au sein de la radio, qui est une radio d'expression francophone au départ. Et alors, on jouait sur les mots, il y avait un peu des célèbres tendances, les néerlandophones essayant de tirer vers un mot plus néerlandophone. Et en fait, il y avait quelques personnes qui avaient un peu plus d'humour que ça. Moi, j'aime bien tout le mouvement panique avec Topor et d'autres qui a eu lieu en littérature et dans l'art à un moment. Et finalement, on est arrivé à panique avec IK à la fin, qui faisait un peu la balance entre le panique en français et panique en néerlandais. Voilà, voilà.
Donc, Radio Panique, comme Radio Titanic. On est en 1983. Les années 80, ce sont des années de crise. Des années où l'on met en question les acquis sociaux et les générosités culturelles qui avaient marqué les années 60 et 70. Les années 80, ce sont les années où le capital financier prend la suprématie sur le capital industriel. Les années où l'on précipite le surendettement des pays du tiers-monde et annexe le second monde. Les années où le sida apparaît. Les années où le chômage s'emballe. Les années où se creuse ce que les sociologues appellent la société duale. Les uns ont tout, les autres n'ont rien. Panique à bord.
Le chômage s'étend, les chômeurs sont légion. Il y a des licenciements dans toutes les régions. Les prix augmentent à 180 à l'heure. Tandis que sur les routes, maximum 120 à l'heure. C'est le rock de la crise.
C'était la victoire du mouvement des radios libres et la gestation de Radio Panique. Premier chapitre de la série « Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, Radio Panique naît dans le contexte du déclin du mouvement des radios libres.